Il est maintenant 19h30 ici à Paris, c'est toujours Radio France Internationale que vous écoutez.
Afrique Soir.
Voici une nouvelle demi-heure d'information avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir. À la une, le Bénin, le mouvement djihadiste Jnim affilié à Al-Qaïda revendique ce soir l'attaque dans laquelle 28 militaires béninois ont été tués mercredi dans le nord du pays. Une attaque qui a choqué le pays. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara maintient le suspense sur sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. Dans l'actualité également, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et nous reviendrons sur le bilan des opérations militaires et diplomatiques, un bilan dressé par les autorités congolaise hier. Dernier épisode du bras de fer entre Paris et Alger. L'Algérie refoule un influenceur expulsé par la France. Dans l'actualité également, la Guinée. Le gouvernement suspend les partis politiques sans autorisation administrative. Et puis l'environnement. Près d'une vingtaine d'hippopotames morts de malnutrition ces trois derniers mois au Zimbabwe, victimes de la terrible sécheresse qui frappe l'Afrique australe. Enfin, la musique et coup de projecteur ce soir sur une jeune artiste camerounaise, Astrone, invitée samedi à la Philharmonie de Paris. Mais d'abord le Mozambique, où les partisans de l'opposant Venancio Mondlane sont dans l'attente. Le candidat malheureux à la présidentielle du 9 octobre est rentré de son exil triomphalement. Hier, il avait fui le pays après l'assassinat de deux de ses collaborateurs en octobre. Mais aujourd'hui, quelle est la suite, à quelques jours seulement de l'investiture du président élu? Dans son fief, tous les espoirs sont désormais permis. François Mazé.
Farouk Abdoul est un ami d'enfance de Venancio Mondlane. C'est avec émotion qu'il montre sa rue. Qui aurait cru qu'un enfant du 25 juin ferait trembler le régime?
On a grandi ensemble ici. Durant l'école primaire, il jouait chez moi. Ce serait bien s'il devenait notre président. On serait très fiers. Le proverbe dit que c'est avec les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. Parfois, il faut se débarrasser des vieilles casseroles.
Owen Mamadi vient de la province de Zambézi, dans le nord du pays. Il habite au 25 juin. C'est l'espoir d'une vie meilleure qui l'a poussé vers la capitale.
Quand je suis arrivé ici, tout a empiré. Le sac de farine, de riz, de mil coûte 2000 métécaïches, 30 euros. 5 litres d'huile, 1800 métécaïches. Venancio est un bon politique. Si Dieu lui donne le pouvoir, on sera heureux.
Dans les rues, des policiers patrouillent, armes en bandoulière. La tension est palpable. Francisco, un voisin de Venancio Mondlane, explique.
Nous sommes en pleine tension post-électorale. Parfois, on nous prend pour des vandales. Alors, nous devons fuir quand nous voyons les autorités. C'est pour ça qu'on ne se sent pas en sécurité. Ça n'est pas normal, mais chaque chose demande un sacrifice.
Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, s'est dit disposé aujourd'hui à aider à mettre un terme à la crise politique mozambicaine.
RFI, vous écoutez Afrique Soir, il est 20h33 à Maputo. Le Jnim, le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, revendique ce soir dans un communiqué l'attaque qui a coûté la vie il y a 48 heures à 28 militaires béninois dans la zone dite du point triple. Elle est à la frontière avec le Burkina et le Niger. Cette attaque a soulevé une vague d'émotion au Bénin. Bonsoir Paul Lorgerie.
Bonsoir.
L'opinion publique et l'ensemble de la classe politique sont sous le choc.
Oui, les condamnations dans la classe politique sont unanimes. Les deux grands partis du Cantalon, le Bloc Républicain et l'Union Progressiste pour le Renouveau, rendent hommage aux soldats tombés et appellent à l'unité ainsi qu'à la solidarité. Pour le parti d'opposition Les Démocrates, il s'agit d'une tragédie nationale de grande ampleur. L'opposition réclame à Patrice Talon un deuil national de 3 jours et lui recommande d'avoir une approche régionale dans sa lutte contre le terrorisme. Une invitation à travailler notamment avec le Niger et le Burkina Faso. Patrice Talon n'en a pas fait encore assez, estime de son côté le leader du mouvement Demain il fera beau. 48 heures après l'attaque, les sources militaires contactées par notre correspondant Jean-Luc Aplogan en restent toujours à 28 soldats tués. Un bilan qui pourrait évoluer, tout dépend de l'état de santé dans lequel se trouvent les rescapés. Aucune information n'est pour le moment disponible, l'armée informant actuellement les familles des victimes. Alors tous ces soldats, tous grades confondus, appartiennent aux effectifs de l'opération Mirador, dispositif antiterroriste créé en février 2022 qui compte environ 3000 hommes. De bonnes sources, on apprend également que le président Patrice Talon devait rencontrer la hiérarchie militaire.
Merci Paul Langerie. Alors cette attaque, vous le disiez, dans le nord du Bénin, a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Est-ce que ce groupe djihadiste possède actuellement des bases au Bénin ou est-il basé dans les pays voisins? Écoutez la réponse de Bakary Sambé, il est enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur régional du Timbuktu Institute et de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Il répond aux questions de Nicolas Sur.
C'est vrai que le Burkina Faso représente le point nodal de débordement de l'épicentre sahélien vers les pays côtiers à partir du parc W, mais aussi dans toutes ces zones vers Karimama, Banikwara. Et je crois que la stratégie aussi des djihadistes est de trouver des soutiens locaux, d'où l'importance qu'a comprise le gouvernement béninois en établissant un dialogue, notamment avec les communautés peul récemment, avec la rencontre entre le président et les chefs de cette communauté-là. Je crois que aujourd'hui, on est dans la phase de harcèlement des forces de sécurité et de défense entamé depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui prend une toute nouvelle ampleur.
Mais il y a déjà à l'heure actuelle des Béninois dans les rangs du JNIM.
Des études que nous avons faites dans la région de l'Atakora, dans le département de l'Atakora, dans un récent rapport, établissaient un contact entre des éléments, ce qu'ils appellent les gens de la Bourousse, c'est-à-dire ces djihadistes établis dans la forêt, et des jeunes des communes voisines, ce qui montre qu'il y a aujourd'hui un agrégat de facteurs internes avec la communautarisation de la violence et l'ancrage local progressif et des facteurs exogènes qui sont liés à l'insécurité endémique dans les pays voisins comme le Niger, mais surtout le Burkina Faso, qui est le point nodal de ce débordement de l'épicentre, ce qui nous pousse vers l'hypothèse selon laquelle le Bénin est en train de devenir le nouvel épicentre côtier du terrorisme.
Oui, c'est-à-dire que pour vous, cette attaque est l'incarnation d'un phénomène dont on s'inquiète beaucoup depuis plusieurs années, l'expansion du djihadisme sahélien vers les pays côtiers.
Ce phénomène s'est enclenché depuis très très longtemps, mais en Afrique de l'Ouest, on avait commis l'erreur stratégique de déconnecter le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il y avait des continuums socio-historiques à partir du Burkina Faso, à partir du Niger, et que vu la transnationalité de ces facteurs-là, aujourd'hui on ne peut plus envisager, en tout cas évaluer la menace en partant des évaluations par pays, d'où la difficulté pour le Bénin aujourd'hui, qui se trouve à la frontière de pays en instabilité politique et en insécurité, alors que les mécanismes régionaux de coopération sécuritaire sont de plus en plus affaiblis avec le conflit qu'on connaît entre la CEDEAO et les pays de l'AES.
Voilà, le chercheur Bakary Sambé, invité de Nicolas Sur dans Afrique Midi, entretien retrouvé sur notre site internet www.rfi.fr. En bref, au Burkina Faso, plusieurs personnalités du régime de Roch Marc-Christian Kabore visées par des poursuites judiciaires. L'ex-président de l'Assemblée, Alassane Bala Sakandé, est poursuivi pour détournement de deniers publics, d'attribution illégale de marchés publics et d'avoir distribué de façon injustifiée l'argent de l'Assemblée nationale. Ses biens ont été saisis dans plusieurs villes du pays. Et quant à l'ex-ministre des Sports, Dominique Nana, comme plusieurs personnes, il est mis en examen pour des faits de fraude à la commande publique, surfacturation et faux en écriture dans le cadre des travaux de rénovation du stade du 4 août de Ouagadougou. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara entretient le suspense autour de son éventuelle candidature à la présidentielle du 25 octobre. Hier, lors des échanges de vœux avec le corps diplomatique à Abidjan, il a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision, tout en affirmant que le scrutin sera paisible, démocratique et transparent. Des déclarations qui suscitent pour l'instant un certain scepticisme, Binta Diagne.
Pour les partis d'opposition, plusieurs aspects posent question. D'abord, le suspense autour de la candidature du chef de l'État. Pour Pascal Affine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien, en réaffirmant sa promesse de passer le flambeau à une nouvelle génération, Alassane Ouattara prépare déjà la campagne d'un éventuel dauphin. Ouattara dit avoir une demi-douzaine de candidats, la conclusion logique et qu'il respecte sa parole, estime le leader du FPI. Ensuite, il y a les conditions du scrutin qui seront paisibles, démocratiques et transparentes, selon les mots du chef de l'État. Cette assurance doit être suivie d'actes concrets, insistent plusieurs responsables de l'opposition, qui réclament la reprise du dialogue politique, un dialogue pour notamment parler de la réforme de la loi électorale ou encore de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, explique Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI. Sur la même lancée, le PPACI souhaite que l'élection soit inclusive, notion qui n'apparaît pas dans les propos du chef de l'État, relève Sébastien Dano-Djedjé, le président exécutif du PPACI. Cette formation politique plaide pour une réinscription de Laurent Gbagbo sur les listes électorales, car l'ancien président est actuellement inéligible. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En bref, au Nigeria, la justice assoit définitivement l'amido Sanoussi sur le trône d'émir de Kano, la grande ville musulmane du nord du pays. Après une longue bataille judiciaire, la cour d'appel a finalement rejeté le recours qui cherchait à annuler sa nomination. La décision a été rendue cet après-midi. Elle a été saluée par des scènes de liesse populaire. En Guinée, le gouvernement suspend les partis politiques non autorisés. C'est la conséquence d'une campagne d'évaluation des formations politiques du pays effectuée en octobre. Toutes les formations doivent donc se mettre en règle avant la fin de ce mois de janvier afin de préparer les élections à venir cette année, comme s'y est engagé le président de la transition, Mamadi Doumbouya, lors de son discours du Nouvel An. Les explications de Sidi Yansané.
Dans son communiqué, le ministère de l'administration du territoire déplore la prolifération des partis sans autorisation administrative et exige la fin de leurs activités. Revenant sur les résultats de l'évaluation des partis politiques l'an dernier, le ministre Ibrahima Khalil Koundé invite toutes les institutions et partenaires à cesser leur collaboration avec 54 partis suspendus. Ces derniers avaient 3 mois pour se mettre en règle. L'échéance est donc fixée à la fin janvier. Cette décision intervient 10 jours après le discours du Nouvel An du général Mamadi Doumbouya. Le président de transition annonçait que 2025 serait une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'il fixerait bientôt la date du référendum et que les formations politiques pouvaient reprendre totalement leurs activités. Hier sur RFI, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo précisait que le scrutin référendaire pourrait se tenir au mois de mai.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 19h passé de 38 minutes en temps universel.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
En RDC, la guerre dans l'est du pays qui oppose les forces congolaises et leurs alliés au groupe armé M23 et l'armée rwandaise était au cœur d'une conférence de presse des autorités congolaises hier soir. Devant les médias, le porte-parole de l'armée, le porte-parole du gouvernement ainsi que la chef de la diplomatie ont évoqué deux fronts, militaire et diplomatique, l'occasion pour les forces armées congolaises de revenir sur les opérations des derniers jours à Kinshasa, Pauline Azidi.
Le porte-parole de l'armée congolaise a évoqué le retour du groupe armé M23 dans la localité de Massissi Centre. Mais les combats se poursuivent, ajoute le général Ekenge. L'objectif de cette contre-offensive lancée depuis lundi, c'est de reprendre du terrain au M23 à l'origine de la rupture du cessez-le-feu selon Kinshasa. Sur le front diplomatique, la ministre des Affaires étrangères s'est félicitée de plusieurs déclarations de chancellerie occidentale ces derniers jours qui condamnent la dernière offensive du M23 et qui appellent une nouvelle fois au retrait des militaires rwandais. Thérèse Wagner a souligné le dernier rapport des experts de l'ONU qui avance le nombre de 4000 soldats rwandais déployés en territoire congolais. Et dans ce front diplomatique, il y a le front médiatique sur lequel a insisté cette fois-ci le ministre de la Communication. Un avertissement a été lancé aux médias sur le traitement de la guerre dans l'Est. Patrick Mouyaya a aussi annoncé le retrait des accréditations des journalistes du média qatarien Al Jazeera après la diffusion d'une interview d'un responsable du groupe armé réalisé par ce que Kinshasa a qualifié de propagandiste pro-Kagame. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Au Cameroun, la défenseuse des droits humains, Alice Nkom, n'a pas été reçue en personne ce vendredi par le préfet du Vouris et son conseil, maître Faustine Chebou-Fotso, avocate au barreau de Paris et du Cameroun, qui a rencontré le représentant local du pouvoir exécutif pour échanger sur l'affaire des scellés apposés sur l'immeuble de l'ONG Redac à Douala. Des scellés apposés donc sur cet immeuble et brisés par Alice Nkom, la présidente du conseil d'administration du Redac, qui est par ailleurs convoqué mardi au service d'enquête de la justice militaire à Yaoundé après une plainte déposée contre elle pour financement du terrorisme. L'Algérie cherche à humilier la France, une déclaration de Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur. Les tensions restent vives entre Paris et Alger. La question des influenceurs se retrouve aujourd'hui au cœur de ces remous diplomatiques. Un influenceur algérien établi en France a été expulsé vers l'Algérie hier après-midi, conséquence d'une vidéo dans laquelle il appelait à la violence contre des opposants au régime algérien. Mais l'influenceur a été renvoyé en France dans la soirée. Baptiste Coulon, dites-nous qui est cet homme. Et que lui reproche-t-on ?
Farouk Abdoul est un ami d'enfance de Venancio Mondlane. C'est avec émotion qu'il montre sa rue. Qui aurait cru qu'un enfant du quartier du 28 juin...
Baptiste Coulon, donc, sur l'affaire qui oppose l'Algérie et le bras de fer à propos d'un influenceur qui a donc été expulsé d'abord par la France, puis refoulé en Algérie. On l'écoutera un petit peu plus tard dans Afrique Soir. En actualité également, l'Ouganda, où le fils du président Museveni, Muzi Kainerou Gaba, le chef de l'armée, annonce qu'il quitte le réseau social X qui appartient au milliardaire américain Elon Musk, réseau sur lequel il a publié plusieurs messages qui ont fait polémique, parmi lesquels la menace de décapiter Bobby Wine, le charismatique leader de l'opposition. L'environnement et au Zimbabwe, une vingtaine d'hippopotames sont morts de malnutrition au cours des trois derniers mois, victimes de la terrible sécheresse qui frappe l'Afrique australe. On en parle avec Igor Strauss.
Des corps décharnés qui laissent apparaître les os, un signe qui ne laisse aucun doute pour les spécialistes. La moitié de la population d'hippopotames du Zimbabwe souffre de malnutrition. En cause, l'interminable sécheresse accentuée par le phénomène climatique El Niño qui frappe le Zimbabwe et la plupart des pays d'Afrique australe depuis plusieurs années maintenant. Il y a tout juste un an, le Fonds international pour la protection des animaux annonçait la mort de plus de 100 éléphants dans le pays en raison de l'assèchement des points d'eau. Et en septembre dernier, des dizaines d'éléphants étaient abattus pour ne pas compromettre la survie de la population. Plus de la moitié des 16 millions d'habitants du Zimbabwe ont besoin d'aide alimentaire, selon le gouvernement. Le pays a déclaré un état de catastrophe pour pénurie alimentaire comme ses voisins, la Zambie et le Malawi. Mais la sécheresse en Afrique australe est loin d'être terminée. Selon le Programme alimentaire mondial, le Zimbabwe semble se diriger vers une autre période sèche qui pourrait aggraver les cas de malnutrition pour des millions de personnes déjà fortement touchées par celles causées par El Niño.
Igor Strauss. Les sports, le football, direction le Moyen-Orient pour Percy Tau, l'attaquant sud-africain du club égyptien d'Al Ahly, vient d'arriver à Doha pour s'engager avec le Qatar SC. Un départ qui semblait inéluctable pour le joueur des Bafana Bafana, demi-finaliste de la CAN 2024. Eric Mamrut.
Percy Tau ne fait plus partie de l'équipe, il est au Qatar. L'annonce vient de Marcel Koller, l'entraîneur d'Al Ahly, venant ainsi confirmer lui-même aujourd'hui le prochain transfert de son attaquant sud-africain. Le contrat de Percy Tau courait jusqu'à la fin de la saison, mais depuis plusieurs mois, la collaboration entre le technicien suisse et le joueur s'était détériorée. De titulaire indiscutable, Percy Tau avait en effet vu son statut peu à peu s'étioler, ses passages sur le banc s'accentuer. Résultat, des envies d'ailleurs cet hiver avec comme destination évoquée les Kaiser Chiefs de Johannesburg ou encore le club iranien d'Esteghlal, entraîné depuis peu par un certain Pitso Mosimane. L'entraîneur sud-africain avec lequel Percy Tau avait éclaté au plus haut niveau sous le maillot des Mamelodi Sundowns entre 2013 et 2018, les deux hommes remportant au passage une Ligue des champions d'Afrique. Avec Al Ahly, l'ailier en avait ajouté deux autres depuis son arrivée au Caire à l'été 2021, mais aussi 9 trophées supplémentaires. Percy Tau, nommé par ailleurs par la CAF meilleur joueur d'Afrique de l'année 2023. À 30 ans, le très percutant et créatif gaucher a finalement choisi un nouveau continent et un nouveau football, après avoir également connu l'Angleterre et la Belgique. Il devrait passer demain sa visite médicale avec le Qatar SC et manquera donc le match de Ligue des Champions que le club Kairot disputera dans l'après-midi face au stade d'Abidjan.
Et deuxième jour d'audience ce matin au tribunal correctionnel d'Abidjan dans l'affaire Tadjou Atada, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo, poursuivi pour harcèlement sexuel. L'entraîneur ainsi que la plaignante, l'athlète Mariama Sissé, ont pu répondre aux questions du tribunal. Lors de la première audience, le 22 novembre, une autre athlète était venue témoigner. Elle accusait l'entraîneur d'attouchement sexuel. Le procureur a requis 1 an de prison et 500 000 francs d'amende contre M. Atada. Le délibéré aura lieu le 21 février. Partons en Centrafrique où ces derniers temps les petits restaurants et les maquis se développent dans tous les quartiers de Bangui, installés au bord des avenues, des routes et des ruelles pour le bonheur des consommateurs. Mais le passage des voitures entraîne des poussières sur les produits alimentaires, une pollution qui provoque de nombreuses maladies. C'est un reportage de Rolf Steve Domialeux.
Dans cette ruelle en latérite au cœur du quartier de Malimaka, dans le 5e arrondissement de Bangui, les restaurants de fortune poussent comme des champignons. Installé entre un caniveau et une décharge publique, le restaurant de Pelagie est exposé à tout type de danger.
Pour pratiquer ce commerce, il faut être forte. J'ai installé ces vieux rideaux ainsi que ces morceaux de pagne pour couvrir le maquis. Ici, je vends des feuilles de manioc, du poulet rôti, du poisson fumé et du nietoum. Je suis consciente que c'est un endroit insalubre, mais on fait avec pour l'instant.
Dans ce maquis, les consommateurs s'installent sur des bancs les uns à côté des autres. Juliano vient de passer sa commande.
Je n'ai pas les moyens d'aller dans les restaurants chics. Chaque jour, je mange dans ce maquis. Comme vous le voyez, il y a de la boue d'un côté, des ordures de l'autre, sans oublier les chiens qui passent entre nos jambes. Les nourritures ne sont pas protégées malgré les poussières. Ce qui m'intéresse, c'est d'être rassasié. Le prix des plats varie entre 350 et 500 francs CFA.
Si le prix de ces plats ne dépasse pas 1 euro, les conséquences sanitaires sont parfois dramatiques pour certains clients. Jonathan en a fait les frais en 2023.
J'ai été hospitalisé pendant plusieurs semaines. La fièvre typhoïde a failli me tuer. Les véhicules qui passent soulèvent la poussière et dégagent des fumées toxiques. Même les assiettes utilisées pour servir les clients sont parfois mal nettoyées. Après ma guérison, j'ai pris la résolution de ne plus manger dans les maquis malsains.
Le manque d'hygiène dans les restaurants publics peut être à l'origine d'une intoxication alimentaire, selon Jean-Christian Amédée Mandjeka, nutritionniste.
Ces aliments-là peuvent être source de contamination pour le consommateur. La poussière qui se dépose sur les aliments quand ce n'est pas protégé, les personnes qui passent, qui toussent, la tuberculose, la transmission directe à travers la salive, la respiration, etc. Ces points noirs sont en fait des substances cancérigènes qui peuvent se poser dans les poumons, dans les voies respiratoires, etc. Et c'est des poisons pour les consommateurs lambda.
En attendant la mise en place des mesures sévères, la mairie de Bangui et le ministère de la Santé continuent de sensibiliser les propriétaires de ces restaurants sur le respect des pratiques d'hygiène. Rolf Estève Domerle, Bangui. RFI.
RFI vous écoute Afrique Soir, 19h51 ici à Paris, à suivre ce soir sur la Radio du Monde. Pourquoi RFI dit ça? C'est à 19h40 en temps universel. Respect dû aux défunts, droit au blasphème. Vous nous avez interpellé cette semaine sur notre manière de couvrir l'actualité. Manon Chaplin, notre correspondante en Syrie, s'est rendue à Kardaa où le tombeau d'Hafez al-Assad a été profané. Ce reportage a choqué certains auditeurs, mais les faits décrits sont importants pour comprendre la Syrie d'aujourd'hui. Manon Chaplin.
Le rapport à la mort est toujours compliqué pour les auditeurs et aussi pour nous sur le terrain. On peut vite se retrouver dans ce genre de contexte devant des morgues, à des enterrements, devant des corps morts. Donc ici, c'était un mausolée, un lieu de recueillement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas en parler, d'autant plus quand on comprend l'ampleur du symbole. Beaucoup avaient l'impression de prendre une certaine revanche sur les actes de torture qu'ils avaient pu connaître, eux ou leurs proches.
Pourquoi RFI dit ça à 19h40 en universel? À suivre également ce soir, bien sûr. Couleur tropicale, programmation musicale consacrée aux nouveautés et aux découvertes en fin d'émission. La séquence Gold mettra à l'honneur des chansons sorties avant, à la fin des années 2010. On écoute le morceau Fabregas Bembe.
Et musique encore avec ce coup de cœur. Elle est camerounaise, elle a 25 ans. C'est l'une des artistes invitées à se produire demain samedi à la Philharmonie de Paris. Elle a été sélectionnée dans le cadre d'une carte blanche au label de musique Rins pour une nuit électro de musique et de danse. Son nom, Astron, et Florence Maurice l'a rencontrée.
Elle est née au Cameroun, mais elle a grandi à Rennes, en Bretagne. Férue de jazz et de R&B, Astron a été bercée au son de Richard Bona, Manu Dibango et du Makossa qu'écoutait sa maman. À 25 ans, elle se définit comme une artiste black folk, le folk noir en français.
Ça rejoint bien le blues dans ma folk et la sensibilité et les influences quand j'essaie d'exprimer mon rapport avec mon identité du coup noire. J'ai l'impression que en France, en fait, on voit pas beaucoup de folk noir et c'est très connoté blanc. Et je trouvais ça important de souligner la représentation afro dans la folk.
Harpiste, guitariste, chanteuse, autodidacte, elle débute sa carrière solo en 2023. Astron autoproduit alors son premier single, Reconnect, que remarque un label londonien. Voix douce, atmosphère intimiste et flow limpide de la guitare avec ce titre Reconnect, Astron rend hommage au pouvoir de la musique, celui de guérir nos blessures intérieures, une invitation à la découverte de soi.
J'aimerais encourager les gens à reconnecter avec non seulement leur enfant intérieur, mais leur instinct, juste écouter leur corps. C'est la catharsis. Je pense que ça va être la ligne directrice de toute ma carrière, c'est apprendre à vraiment respecter la vie et le don de la vie.
Pour Astron, Reconnect, se reconnecter, c'est aussi retrouver ses racines à Douala, au Cameroun, où elle n'est plus retournée depuis 15 ans.
J'ai été exportée du Cameroun à l'âge de 3 ans. Je ressens le besoin urgent d'y retourner. Je ne sais pas si c'est ma culture, mais c'est mon origine. Je vais y aller cette année et tout documenter, ça va être incroyable.
Astron qui sera donc en concert samedi demain à la Philharmonie de Paris, sélectionnée dans le cadre d'une carte blanche au label de musique Rins. On en parlait avec Florence Maurice. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine édition d'Afrique Soir, ce sera 20h30, heure de Paris. Bonne soirée à vous à l'écoute de la Radio du Monde.
À l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
La moitié des 11 000 espèces d'oiseaux répertoriées sur Terre sont en déclin. Cela vaut bien un procès, même s'il est fictif. C'est le principe des procès du siècle organisés en public par le MUCEM à Marseille. L'humanité face aux oiseaux, à vous de juger.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI.
Géopolitique.
L'investiture de Donald Trump, le 20 janvier prochain, pourrait bouleverser les équilibres mondiaux déjà bien fragiles. Entre les tensions avec la Chine, le conflit en Ukraine et les incertitudes géopolitiques, que réserve cette nouvelle ère ? La Pologne, à la tête d'une Union européenne affaiblie, fait face à un défi historique. Et une question demeure, jusqu'où ira Donald Trump ?
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Samedi, à partir de 18h40 TU.
RFI.
Actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Près de 3 ans après le début de l'invasion russe, Moscou et Kiev sont toujours en guerre. Effectifs, équipements, stratégies, où en sont leurs armées? Quelle est celle qui a gagné en innovation? Et les combats peuvent-ils se poursuivre encore longtemps? Nous en discutons avec Franck Alexandre.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr. Musique du monde, Laurence Alloir.
Black Eyes and Android est le nouveau projet de Loya et de la famille Remaninj. C'est une rencontre entre un informaticien réunionnais et un lutteur malgache, aujourd'hui reconverti en sorcier électro et maître de cérémonie traditionnelle. Océan Indien, 10 points. Loya est notre invité dans la session live.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Samedi, à partir de 20h10 TU.